à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Andrew Nguyen, bonjour.
Bonjour, monsieur Cyr.
Andrew Nguyen, vous êtes quelqu'un qui est très connu dans notre cercle toulousain, mais pour nos auditeurs qui ne sont pas de ce premier cercle, je vais quand même vous présenter. Vous avez 65 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants. Vous avez été pendant longtemps infirmier dans la fonction publique. Vous êtes membre de la paroisse Saint-Étienne. Et j'en arrive aux activités qui nous intéressent plus particulièrement ici. Vous êtes un ancien colocataire de la maison Lazare de Toulouse.
Effectivement.
Et j'ai eu le plaisir d'interviewer Laure Denoré, qui a été une des maîtresses de maison, en quelque sorte, de cette maison Lazare. Vous êtes responsable, surtout actuellement, du pôle Errance Précarité, depuis déjà 2017, au Secours catholique. Et donc, vous avez énormément d'activités dans ce cadre-là. Évidemment, on va revenir là-dessus. Et puis, vous avez un tas d'associations et de groupes dans lesquels vous intervenez. Simon de Sirène, Cœur des entreprises. Vous êtes ambassadeur pour la collecte de dons, pour le projet Bordeaux Rouge Saint-Sauveur. Bon, donc vous avez beaucoup d'engagement et c'est pour ça que le cercle des Toulousains que nous fréquentons souvent ici vous connaît bien. Donc merci d'être venu témoigner auprès de nous. Et je voudrais qu'on aborde ensemble deux questions. D'abord que vous nous racontiez un peu votre parcours, ce que vous faites. Je pense que nos auditeurs seront intéressés de le voir. Et ensuite qu'on parle des questions de précarité qui sont des questions préoccupantes et qui sont loin malheureusement d'être réglées. Et donc, si vous voulez, dans un deuxième temps, on abordera ça. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un peu tout ce que vous faites dans le cadre du Secours catholique et ailleurs ?
Alors, dans le cadre du Secours catholique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Cyr, je suis responsable du pôle Errance Précarité. Alors, pôle Errance Précarité de la délégation Ariège-Garonne est un pôle d'activité qui est en contact direct avec toutes les personnes qui sont dans la rue. Là, actuellement, je gère deux accueils de jour, à savoir un accueil mixte qui s'appelle l'Ostalada, qui est situé place Arnaud-Bernard, et un autre qui s'appelle la Casella, qui est essentiellement réservé aux femmes en errance et des femmes avec enfants de moins de 3 ans.
Alors, comment fonctionnent ces lieux d'accueil ?
Alors, ces lieux d'accueil fonctionnent toute la semaine, de 8h30 à 11h30. On fait un accueil par un brunch. Pourquoi un brunch ? Parce que nos bénéficiaires, la plupart du temps, ne mangent pas à midi. Ils attendent le soir les Restos du Cœur pour pouvoir manger quelque chose. Donc, on a pris la décision, il y a quelque temps, de faire un repas carrément bien équilibré, complet. Ensuite, non seulement ils peuvent manger, mais ils peuvent aussi se doucher et laver leur linge. Ce qui veut dire qu'un bénéficiaire qui arrive à 8h30 pour prendre son petit déjeuner, il se douche et il repart avec son linge lavé et surtout séché.
Ah oui, autant dans vous la avez aussi investi dans les sèches-linges.
Nous avons aussi investi dans les sèches-linges parce qu'il faut partir du principe que l'hygiène corporelle, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie de la dignité de l'être humain. Ça c'est une chose. Mis à part les accueils de jour, nous avons des équipes de maraudes, des maraudes pédestres, où on est partenaire avec les lycées et collèges privés de Toulouse, où nous maraudons avec tous ces lycéens et lycéennes pour leur faire comprendre ce qui se passe dans la rue. La rue, c'est certes, il y a énormément au jour d'aujourd'hui, énormément de personnes qui sont non hébergées. J'aime pas trop le terme SDF, je préfère dire les sans-abri. On a trop tendance au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au XXIe siècle, de passer à côté en les ignorant. Or, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ce n'est pas en passant à côté et les ignorer qu'on va arranger la chose.
Alors, donc, on dit souvent, M. Nguyen, mais oui. Vous allez justement faire la part des choses là-dedans. On dit souvent que beaucoup de CSDF, finalement, quand on leur propose des solutions pour les héberger, etc., sauf s'il fait très froid, mais en temps normal, ils ne veulent pas y aller. Ils préfèrent dormir dans la rue.
Alors, justement, ça fait partie de notre mission au sein du Secours catholique, c'est le aller vers et l'accompagnement. Certes, aller vers et accompagner, c'est deux jolis mots, mais il faut pouvoir aller plus profondément. D'où le fait de faire ces maraudes, on fait le lien avec toutes ces personnes-là. Le lien ne se fait pas du jour au lendemain, le lien se fait sur un long temps. À force de nous voir, à force de dialoguer avec eux, ils s'ouvrent petit à petit. Et c'est à ce moment-là qu'on leur propose l'accompagnement vers l'hébergement, vers le logement ou le travail. Mais c'est un travail de longue haleine. Il est vrai que pour la plupart, être entre quatre murs et un toit, c'est très compliqué parce qu'ils ont ce sentiment de liberté, entre guillemets, dans la rue. La rue leur appartient. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Les remettre dans ce qu'on appelle les règles de la société, c'est-à-dire une maison ou un foyer ou autre, c'est compliqué. Mais on y travaille. On travaille avec eux et petit à petit, on y arrive. La force du Secours catholique au pôle errance précarité, ma force, je dis bien ma force, c'est que à force de faire des maraudes, à force de rencontrer toutes ces personnes qui sont dans la rue, j'arrive à nouer cette espèce de d'intimité avec eux. Et quand je sens poindre un début de projet de vie, quelque chose comme ça, mais qu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fiers, c'est dans la nature humaine, ou bien c'est parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Je leur propose une chose, je vous accompagne vers un hébergement, vers le logement, vers le travail, mais en contrepartie, je vous demande 6 à 8 mois de votre vie en tant que bénévole. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, au Secours catholique pôle errance précarité, je peux m'enorgueillir de dire que le pôle errance peut être resté ouvert du 1er janvier au 31 décembre, férié compris.
Été compris.
Été compris. C'est-à-dire du 1er janvier, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on est tout le temps ouvert. Grâce à toutes ces personnes-là, parce que le Secours catholique est devenu leur maison, c'est devenu leur famille, et ça c'est hyper important, et ils se sentent reconnus. Ça, c'est encore quelque chose encore de plus important que le reste. C'est-à-dire, je reconnais ce que tu es. Tu es un homme, tu es un être humain, tu fais ce que tu as à faire, tu as l'expérience, je te prends avec moi et on travaille ensemble. Et on travaille main dans la main.
Monsieur Nguyen, je sais aussi que ce n'est pas toujours facile avec ces populations. D'abord parce que souvent ils ont des chiens, des animaux, généralement des chiens. Donc c'est un problème. Et puis souvent, il y a des addictions, soit à la drogue, soit à l'alcool. Comment vous traitez ça ?
Alors justement, ça c'est la, vous pointez du doigt la problématique que nous avons avec tous ces sans-abri, surtout au niveau des addictions. Les addictions à l'alcool, les addictions au shit, on fait comme si ça n'existait pas. Et on travaille petit à petit. Par exemple, j'ai un de mes bénévoles qui est avec moi, qui m'accompagne depuis 4 ans. Il avait une addiction à l'alcool, on laisse faire. Mais petit à petit, on insuffle cette espèce de... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, je suis un ancien soignant. Mon rôle à l'époque, c'était éduquer les gens, que ce soit l'alcool, la cigarette ou les drogues dures ou le shit, ou peu importe. On injecte toutes ces petites choses en leur disant, tu sais, tu es en train de te détruire petit à petit. Mais on n'y va pas brutalement, on y va tout doucement. Et on y arrive. Au jour d'aujourd'hui, cette personne qui a 4 ans d'existence, entre guillemets, avec moi, est arrivée à se sortir de l'alcool. Bien sûr, elle est suivie par un thérapeute. Bien sûr, on est là pour l'accompagner. Au jour d'aujourd'hui, il prend un traitement. Il est quasiment sorti de l'alcool, du problème de l'alcool. C'est la même chose pour le shit ou les drogues dures. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de très longue haleine. Il faut être patient. Et surtout.
Et les animaux, comment...
Alors, pour les animaux, c'est un autre problème. Les animaux, bien sûr, il y a très peu de sans-abri qui rentrent dans la boucle du bénévolat au Secours catholique avec des animaux. On en a un qui est arrivé avec un animal. On vit parfaitement bien. Il n'y a aucun souci. Le souci qu'ils ont, c'est pour les héberger. Il n'y a aucun hébergement qui les accepte avec les animaux. Et ça, c'est compliqué. Mais on est en train de travailler sur cette affaire-là, trouver des centres, des lieux d'hébergement où on accepte les chiens. Nous, à l'Ostalada, on accepte les chiens quand ils arrivent pour déjeuner et autres. Il n'y a aucune... C'est une ouverture inconditionnelle. Et le mot inconditionnel, ça veut dire sans condition.
Donc ils peuvent venir à l'Ostalada. Il y a combien de places à l'Ostalada?
À l'Ostalada, place assise, 60.
Et vous en accueillez combien par jour?
On tourne à 150 personnes par matinée, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ouvre de 8h30 à 11h30. Ouais, les après-midi sont réservés aux ateliers.
Oui, ils ne passent pas toute la matinée, mais ils viennent, ils prennent une douche.
Voilà, c'est ça. Ils viennent pour se reposer demi-heure, une heure, deux heures. Ça dépend, c'est selon...
Ils ont dormi à droite, à gauche, sur le pont, oui.
Sans oublier que, de temps en temps, les nuits sont violentes, sont agressives, sont compliquées, elles sont froides, elles sont glaciales, ou bien elles sont trop chaudes. Et là, c'est un havre de paix. Que ce soit la Casella ou que ce soit l'Ostalada, ils savent qu'on les accueillera.
La Casella, c'est pour les femmes?
Pour les femmes, tout à fait.
Et là aussi, combien de femmes vous accueillez?
Alors, en ce moment, parce que la Casella a été ouverte il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire au mois de mars 2022, c'est-à-dire c'est tout récent, et nous tournons entre 20 et 30 femmes par jour.
Donc, à l'Ostalada, c'est 150 à peu près. Donc, vous, en gros, vous avez à peu près 200 personnes tous les jours qui viennent à Toulouse profiter de...
Ça, je parle des deux accueils de jour.
Oui.
Mais nous avons un autre site de distribution de petits déjeuners pour les personnes qui n'arrivent pas encore à rentrer entre quatre murs et un toit. Et ce lieu de distribution de petits déjeuners s'appelle le Chemin du Raisin. Le Chemin du Raisin, c'est un lieu où le quidam quelconque peut arriver pour prendre son petit déjeuner. C'est exactement pareil. Sauf la seule restriction, c'est qu'il n'y a pas de douche et il n'y a pas de laverie.
Ouais.
Voilà.
Et ça se situe où?
Et ça se situe Chemin du Raisin. Et on est ouvert aussi du 1er janvier au 31 décembre.
Je ne situe pas le
C'est chemin. Derrière l'ARS.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ouais. Alors, ce L'ARS, site-là, l'Agence Régionale de Santé.
De la Santé, voilà. Ce site-là sera exportable en 2026 quand le plan d'innovation sociale qui se situe à Matabiau sera ouvert.
Ah.
On aura pignon sur rue, si je puis dire, là-bas aussi, avec les Restos du Cœur, la main tendue, le 115. Ce sera un gros pôle d'activité qui regrouperont toutes les personnes qui arriveront, qui auront besoin...
En difficulté.
Voilà, qui auront besoin d'un accompagnement, parce que, faut pas oublier une chose, la demande auprès de nos précaires qui sont dans la rue, la première demande, c'est l'accompagnement, parce qu'ils sont hyper isolés.
Voilà.
Et c'est notre job.
Et tout ça a un coût. Comment est financé le Secours catholique? Comment il peut financer
Alors,
tout ça?
Alors, sachez que le Secours catholique ne vit que sur du don et du mécénat. Certes, de temps en temps, nous avons Toulouse Métropole, voire l'État, c'est-à-dire la préfecture, qui nous donne des coups de pouce de par nos actions. Je prends par exemple l'action qui s'appelle l'Estival. L'Estival, c'est une mutualisation entre les hôpitaux de Toulouse plus les Restos du Cœur, et nous-mêmes bien sûr, où on s'est réunis pour pouvoir distribuer jusqu'à 450 repas tous les soirs pendant la période estivale, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 août. Il faut penser que pendant cette période-là, quasiment toutes les associations sont fermées par manque de bénévoles. Pourquoi? Parce que les bénévoles, la plupart, ce sont des grands-parents, ils s'occupent des petits-enfants, ou bien les bénévoles dits traditionnels partent en vacances, ce qui est tout à fait légitime.
Oui.
Mais nous avons pensé que le monde de la rue continue à vivre. Il faut qu'ils mangent et autres. Donc, non seulement ils ont droit à leur petit déjeuner, je cite chez nous parce que le Secours catholique est ouvert, mais ils ont droit aussi à un repas chaud le soir, tranquillement, à l'espace du Grand Ramier.
À l'espace du Grand Ramier.
Voilà.
Qui lui aussi a été rénové. Là.
Alors, l'espace du Grand Ramier qui est en rénovation.
C'est en rénovation, oui.
Voilà, c'est en rénovation. Les douches à l'espace du Grand Ramier ont été exportées vers les Faubourgs Bonnefoy, où ils ont des douches plus une laverie qui tourne à plein régime au jour d'aujourd'hui.
Alors ça m'amène à parler un peu de la précarité. Vous avez une expérience évidemment dans ce domaine qui est quasiment incomparable. Enfin, vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes un des piliers du travail sur tous ces gens sans domicile fixe. Quelle est votre perception sur la durée que vous connaissez de l'évolution? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est face à de plus en plus de problèmes? Est-ce que ce sont toujours à peu près les mêmes populations ou est-ce que ça a changé? Quelle est votre perception?
Au jour d'aujourd'hui, par rapport à 2017, l'année où je suis rentré au Secours catholique, je trouve que la précarité a, a fait un bond. Malheureusement, dans le mauvais sens du terme, dans le mauvais sens, je veux dire, il a augmenté.
Sur le plan quantitatif.
Sur le plan quantitatif. D'autant
il y en a
plus,
de plus en plus.
D'autant plus que nous avons essuyé une crise sanitaire qui a fait que la population s'est retrouvée démunie. Nous subissons actuellement une inflation. La population se trouve encore plus démunie. Quand vous voyez les chiffres qui sont plus publiés quasiment tous les jours, nous avons une augmentation de personnes en précarité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs visages de la précarité.
Oui.
Nous avons non seulement nos sans-abri, si on peut dire traditionnels, mais nous avons en plus de cela des personnes qui sont des travailleurs, qui ont basculé dans ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Je me retrouve au jour d'aujourd'hui avec des travailleurs qui vivent dans leur voiture, des travailleurs qui vivent dans leur tente. Pourquoi ? Parce que l'inflation qui nous impacte à tous, vous prenez l'alimentaire qui a pris 12% par exemple, cette inflation, certes il y a une augmentation au niveau, du SMIC horaire de 4% en juillet 2022, mais ça n'a pas suivi l'inflation.
Oui, puis le coût de l'essence pour ceux qui...
Voilà,
ont des...
oui. Exactement ça. Alors, toutes ces personnes se retrouvent dans le rouge dès le 5, voire le 6 ou le 7 du mois. Ils payent leur loyer, pour certains, ils arrivent à payer leur loyer, mais après, ils ne peuvent plus payer les charges fixes, ils ne peuvent plus payer leur alimentaire et encore moins les vestimentaires. Donc, toutes ces personnes, que font-ils? Ils frappent aux portes des associations. Nous avons constaté, nous, au Secours catholique, on a quand même une augmentation de 12%. Un exemple qui est clair et net, avant le Covid...
12% depuis sur l'année 2022 ?
Depuis le Covid.
Depuis le Covid.
Oui, je fais référence toujours au Covid. Oui. Sachez qu'un exemple tout simple, qui est parlant, de 20 000 repas semaine, on est passé à 24 000 repas semaine. Ce qui est énorme, parce que dans cette boucle-là, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante aussi, on a trop tendance à l'oublier, c'est que nous avons des étudiants qui sont dans la précarité.
Oui,
c'est
une réalité.
Vraie, à tel point qu'avec la banque alimentaire, nous avons ouvert des épiceries sociales pour les étudiants. Ils peuvent continuer à pouvoir manger correctement pour une somme modique. Le chaland qui vient à l'Ostalada ou la Casella et paye son petit déjeuner 20 centimes d'euros. Pourquoi il paye son petit déjeuner 20 centimes d'euros? Pour la simple et bonne raison, parce qu'il faut quand même qu'on fasse comprendre à la population que rien n'est gratuit au XXIe siècle. Et puis rien que le fait de sortir une pièce de 20 centimes d'euros, ça veut dire que j'existe. Je peux payer un service. Et ça, c'est hyper important. C'est notre rôle de les accompagner. De ce point de vue-là. Concernant la précarité, je reviens un peu en arrière. La problématique qui se passe, c'est que on essaie de les aider, mais nous sommes quand même menottés, qu'on le veuille ou non, parce que l'inflation touche toutes les couches de la société, au jour d'aujourd'hui. Mais heureusement que nous avons des personnes ou des entreprises ou des fondations avec qui on est partenaire qui nous donnent des coups de pouce.
Oui, alors justement, tout le système quand même, le sentiment qu'on a, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que tout le système repose sur du bénévolat, sur des gens formidables qui font un tas de trucs. Et on se dit, si tout d'un coup, tout ça s'arrêtait, si les bénévoles... mais ça serait une situation dramatique dans notre pays, c'est-à-dire que l'État, effectivement, je trouve extrêmement défaillant, hein.
Oui, ça j'en suis très conscient. Ce que vous dites là est très vrai. Bon, il est vrai que la France, pour ne pas citer un autre pays ou autre, parce qu'on est en France, la France, je pense, peut accueillir jusqu'à 100 000 migrants par an. Certes, moi je dis bien c'est bien, parce que c'est une terre d'humanité. Nous sommes là pour accueillir l'autre. Il ne faut pas oublier une phrase qui est très importante. Aimez-vous les uns les autres. C'est quelque chose qui est très important. Si tout le monde essayait de se poser ne serait-ce que 2 minutes pour réfléchir à cette phrase, je pense que ce serait mieux. L'État, la problématique de l'État, c'est qu'ils ouvrent les frontières. Ils ont ce sentiment qu'ils sont en train d'aider le maximum de personnes possible. Mais il n'y a pas que l'ouverture.
Derrière, en fait, il n'y a pas les structures.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est le bénévolat.
Voilà. Derrière, qui c'est qui se substitue, excusez-moi l'expression, à l'État? Ce sont les associations avec leurs bénévoles. Et comme vous dites, plus de bénévoles, il n'y a plus rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais
Alors, c'est il reste ça. Quand même quelques associations qui ont des salariés.
Oui.
Il y a quelques grosses associations qui font de l'insertion général.
Tout à fait.
Et qui vivent de subventions publiques. Donc, on ne peut pas dire que l'État ne fasse rien complètement. Il y a quand même tout un système de subventions qui arrive via les préfectures sur des associations. Je pense à l'UCRM, je ne sais pas si vous connaissez.
Bien sûr, bien sûr.
Et à d'autres associations de ce même type. Mais enfin, c'est pareil, ce sont des structures associatives qui reposent beaucoup sur le fait qu'il y a des gens qui travaillent gratuitement là-dedans pour organiser tout ça, même s'il y a des salariés. Et le Secours catholique en fait partie, donc de ces associations exemplaires. Vous avez quand même quelques salariés au Secours catholique aussi.
Alors, juste pour mémoire, délégation Ariège-Garonne, on est quand même 1200 bénévoles pour 10 salariés.
Voilà, oui,
donc,
c'est ça,
vous voyez la part des choses.
Et le financement par l'État, c'est du Secours catholique, c'est Epsilon.
Le financement par l'État, c'est ponctuel. Bon, je pense que c'est la politique du Secours catholique qui a toujours voulu qu'on soit des électrons libres, qu'on ait les coudées franches. C'est ponctuel dans le sens où il est vrai que nous avons énormément de missions et ces missions-là nécessitent quand même pas mal de financement. Or, il faut pas oublier une chose, c'est que depuis le Covid, nous avons quand même eu une baisse notable des dons. Donc, il faut qu'on trouve des moyens financiers pour. C'est vrai que l'État, c'est vrai que la mairie nous donne des coups de pouce, mais ponctuellement. Par exemple, dernièrement, j'ai eu un gros coup de pouce de l'État de dons de duvet. Pour pas lui dire une chose, c'est que la personne qui vit dans la rue a un grand besoin de duvet. Alors, si vous voyez le prix d'un duvet au jour d'aujourd'hui, qui est quasiment de 50 euros, un duvet en bonne et due forme qui va jusqu'à moins 11, ça vaut 50 euros. Où voulez-vous qu'on trouve l'argent si l'État ne nous donne pas un coup de pouce? L'État est présent, certes, mais l'État, moi je pars du principe que l'État n'est pas assez présent pour. Certes, l'État héberge des familles avec enfants. À Toulouse, nous avons 2500 personnes qui sont hébergées à l'hôtel pendant les périodes hivernales et autres. Mais c'est le suivi, c'est l'accompagnement de toutes ces personnes qui ont besoin. Vous avez des mamans.
Qui sont des hôtels, qui ne sont pas des hôtels de luxe. Hein,
non, ce ne sont pas des hôtels de luxe. Alors, quand vous voyez dans une chambre où vous avez 6 personnes, c'est-à-dire le papa, la maman et 4 enfants dans une espèce de petit 15 mètres carrés, imaginez. Certes, c'est bien, on les met à l'abri.
Oui.
Mais c'est la suite.
C'est quand même de la grande précarité, oui.
C'est très, très grande précarité. Au jour d'aujourd'hui, nous avons actuellement. Ça, ce sont des chiffres qui sont ponctuels au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on est le 6 décembre ou le 7 décembre, peu importe. Nous avons 50 familles avec des enfants qui dorment dans la rue.
À Toulouse.
À Toulouse. C'est quand même inadmissible dans un pays
familles. Comme
la France, qui est la 7e puissance mondiale, qui exporte sa gastronomie dans le monde entier, qu'on ne puisse pas trouver des solutions pour ces personnes-là. Certes, il y a des solutions qui sont prises, mais il faut attendre. On attend trop.
Ouais.
Pendant ce temps-là, toutes ces personnes-là se précarisent encore plus, ils s'isolent encore plus.
Oui, il y a une espèce de logique de l'échec qui vous amène vers le bas.
C'est la dégringolade. C'est la dégringolade. Et pour nous, bénévoles, bon, on n'est pas les sauveurs du monde ni Dieu le Père. Ça nous touche au plus profond de nous.
Ouais.
On essaie de faire le maximum qu'ils puissent faire. Mais on ne veut pas non plus se substituer à l'État. Moi, l'autre jour, j'ai envoyé un projet en disant on va acheter des tentes pour pouvoir mettre toutes ces personnes à l'abri. Mais ce n'est pas une solution. Moi, c'était ma première réaction. On va acheter des tentes, on les met dedans. Mais si on fait ça, l'État va dire...
C'est réglé.
Les associations ont réglé le problème.
Et est-ce que... Bon, on voit bien que le système repose sur du bénévolat. L'État donne des coups de pouce, ne s'en désintéresse pas complètement, ça serait injuste de le dire. Mais disons que l'État sans les bénévoles, ça ne marchera pas du tout. Est-ce qu'il y a du mal à recruter? Est-ce que vous avez du mal à recruter des bénévoles? Ou est-ce que vous avez le sentiment que là, il y a toujours autant de gens qui viennent?
Alors, du mal, oui et non. Pendant la période de Covid, j'ai eu pléthore de bénévoles. Pourquoi? Parce que les personnes se retrouvaient coincées chez eux, ils étaient oisifs, il fallait qu'ils sortent. Ils ont trouvé le moyen. Les associations avaient besoin de bénévoles. Donc on a eu pléthore de bénévoles. Dès le déconfinement, nous avons chuté au niveau des bénévoles. Je recherchais des bénévoles partout, c'était inimaginable, c'était vraiment critique. Puis peu à peu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a cet engouement de certaines personnes, de certains chefs d'entreprise, de certaines associations qui ont fait que les bénévoles ont voulu revenir. Et là, au jour d'aujourd'hui, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une force vive avec mes bénévoles bénéficiaires, c'est-à-dire les gars que j'ai extraits de la rue, qui sont constamment avec moi, mais il y a les bénévoles qui recommencent à revenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette ambiance morose qui plane, cette inflation qui plombe tout le monde. Ils ont besoin de donner du sens à leur vie.
Et puis, peut-être, monsieur Nguyen, mais c'est pas à vous que je veux le rappeler, peut-être que finalement, le message du Christ, aimez-vous les uns les autres, même si les gens ne vont pas à la messe tous les dimanches, ce message est là et, au fond, impacte un peu les gens et impacte beaucoup de monde.
Tout à fait, c'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'humanité n'est pas perdue, malgré tout ce qu'on
dit. Il ne faut pas désespérer de l'humain.
Je ne désespère jamais. Je suis un naturel optimiste.
Bien, monsieur Nguyen, merci pour ce témoignage passionnant.
Bravo à vous
et bravo pour cette aide que vous donnez à toutes ces personnes en difficulté. À bientôt, j'espère.
Merci à vous et à bientôt.